Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 6 mai depuis les studios de Radio Escapade en direct. Aujourd'hui, il sera quand même pas mal question de forêt, que ce soit la centrale de Gardanne qui va peut-être se remettre, enfin qui s'est remis à tourner, mais dont l'avenir reste toujours critiqué et incertain. On va parler de forêt tropicale aussi avec des déforestations et des peuples autochtones menacés, et ce bien souvent aussi pour alimenter une partie de notre mode de vie et malheureusement aussi de ce qu'on appelle la transition énergétique. Et avant cela, un petit tour d'actu sur ce qui se dit, se fait autour de la situation toujours catastrophique en Palestine. Et puis aussi, toujours malheureusement, du climat un petit peu fascisant qui se répand un peu partout à travers le monde. On commence tout ça au Brésil, donc, avec un attentat déjoué, mais un attentat fasciste qui a été déjoué, qui visait un méga concert de Lady Gaga, et avec des revendications clairement anti-LGBT. C'est donc un immense concert public et gratuit qui a été organisé, c'est le long de la célèbre plage de Copacabana, on est à Rio de Janeiro. C'était ce samedi 3 mai, donc Lady Gaga à l'affiche réunissait 2 millions de personnes sur la plage, un événement qui existe depuis très longtemps, hein. Ce festival a déjà vu par exemple voir les Rolling Stones, je crois, jouer gratuitement sur la plage. Tout s'est bien déroulé, donc heureusement, mais on a appris qu'un véritable carnage avait été évité de peu. Et c'est la police qui a, pour le coup, arrêté ce groupe d'extrême droite qui planifiait donc un attentat contre la foule présente à ce concert. Le groupe avait prévu notamment de faire sauter des bombes et d'attaquer à coups de cocktails Molotov la foule, ce qui aurait provoqué une panique générale dans cette gigantesque foule compacte. Les militants donc, d'extrême droite avaient imaginé cet attentat comme un défi collectif, dans le but notamment de gagner en notoriété sur les réseaux sociaux. Visiblement, il y a une petite surenchère. Et leur but était de recruter d'autres assaillants sur Internet. Leur groupe, donc présent sur les réseaux, diffusait notamment des discours de haine visant la communauté LGBTQIA+. C'est ce qu'ont expliqué les autorités. Les services de renseignement ont donc repéré les intentions de ce groupe et des enquêteurs en ont arrêté des responsables en toute discrétion, plus de 10 perquisitions menées dans plusieurs villes brésiliennes. Ces suspects ont pu être arrêtés donc quelques heures avant l'événement. Le chef appréhendé dans l'état du Rio Grande do Sul, où en état d'ailleurs l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro fait ses plus gros scores. Un autre membre a été interpellé, lui, en possession, par ailleurs, de matériel pédopornographique, du joli. Et enfin, sur la vidéo publiée par les autorités brésiliennes, qui montrent les arrestations et la saisie de matériel, comme ça se fait souvent dans les émissions dans ces pays-là, eh ben, on peut voir à côté d'une arme le téléphone d'un des terroristes, qui affiche bien malheureusement un drapeau israélien en fond d'écran. Et le commentaire donc rappelle qu'au Brésil, comme aux USA, l'extrême droite évangéliste est fanatiquement pro-Israël pour des raisons religieuses. Et c'est cette partie de la population donc qui génère et ben, de tels groupuscules et qui était vraiment à deux doigts de passer à l'acte. En France, la préfecture de police de Paris a annoncé hier soir son intention d'interdire le comité du 9 mai. C'est le défilé annuel parisien des néofascistes, hein. C'est ceux qui avaient notamment l'an dernier réuni près d'un millier de personnes dans la capitale, tout de noir vêtus avec gestes militaires, quasi-militaires. Cette manifestation, qui a lieu normalement tous les ans de la mouvance, a tourné ces dernières années à la démonstration de force de la part de ces militants radicaux, dont les dernières éditions ont fait scandale. Et par ailleurs, la contre-manifestation, qui était déjà programmée par des mouvements de gauche, a elle aussi été interdite. Elle est donc aussi dans le viseur des autorités, qui craignaient à juste titre des affrontements, sauf si la police venait à protéger le cortège, comme ça avait été le cas notamment ces dernières années. Et on part enfin en Belgique, à Bruxelles, où ce dimanche, c'était la finale de la Coupe de Belgique. Et eh bien, cet événement a vu débarquer donc, à Bruxelles des milliers de supporters de Bruges et d'Anderlecht, de d'autres clubs. Et notamment, près de 800 hooligans d'extrême droite du club de Bruges ont envahi les rues des quartiers populaires et fortement marqués par l'immigration de Molenbeek et de Gent. Donc ces centaines de hooligans ont semé le chaos, hein, stations de métro saccagées, magasins pillés, slogans racistes criés à plein poumon, agressions de passants ciblés juste pour leur origine, une ratonnade donc comme on appelle ça, couverte, critique beaucoup d'observateurs, par le silence complice des autorités, hein, la police est arrivée sur place un peu plus tard, je vais vous raconter. On a quand même appris que plusieurs supporters donc, du club de Bruges ont été arrêtés, notamment pour avoir saccagé un night shop et sans être pris aussi un magasin de bricolage pour récupérer des morceaux de bois pour pouvoir se battre si nécessaire. Un témoin était présent sur place et a expliqué « tout ce qui est arabe, il tape dessus ». On voit notamment sur les réseaux sociaux une vidéo qui a été filmée par les habitants de la rue d'un magasin de carrelage, hein, avec le gérant qui tente de protéger son magasin, un homme assez âgé qui est frappé au sol par 10-20 personnes habillées tout en noir. Cette fois, le quartier s'est défendu, la rue n'a pas plié puisque des jeunes du quartier de Molenbeek, une fois alertés, ils ont riposté et des groupes sont défendus, ils ont pris les assaillants à revers, les ont chassés des rues. Une scène rare donc de défense populaire et qui a donné lieu là aussi à des scènes très violentes. Et notamment, ce qui a pas mal défrayé la chronique, c'est cette image marquante, hein, puisqu'au milieu des cris et des coups, un de ces assaillants, donc hooligan fasciste, s'est retrouvé au sol. Et deux femmes l'ont secouru. Et ces deux femmes étaient voilées. Hein. Une était réfugiée syrienne. Elles lui ont donné de l'eau, appelé une ambulance et sont restées à ses côtés jusqu'à l'arrivée des secours, ce qui lui a évité éventuellement d'autres blessures plus graves puisque les jeunes étaient assez remontés. Les agresseurs étaient clairement identifiés comme des néo-nazis venus à Molenbeek pour casser de l'arabe ou du musulman. La police était aux abonnés absents et ils se sont défendus. Un autre commentaire sur justement les jeunes du quartier qui sont venus se confronter à ces hooligans. La même police a annoncé plus d'une soixantaine d'arrestations, savoir qu'il y a aussi eu des bagarres entre supporters ailleurs dans la ville. Après avoir laissé défiler une centaine de brutes épaisses, n'avoir rien fait pour les empêcher d'organiser des ratonnades en règle et commettre les pires violences dans les quartiers racisés, il serait intéressant de compter combien d'entre eux auront été inquiétés par la police et figureront parmi les personnes arrêtées, puisque la police a aussi arrêté, vous l'aurez compris, des jeunes qui étaient venus se battre en réponse à ces hooligans dans les rues donc, de Molenbeek. Et en France, on a appris que Bruno Retailleau venait d'engager une procédure de dissolution de trois associations, notamment Urgence Palestine, hein, qui est connu pour son combat contre l'éradication du peuple palestinien. Aussi le groupe La Jeune Garde, un groupuscule d'ultra-gauche et antifasciste aux méthodes musclées, puisque là aussi ils font de l'autodéfense, fondé à Lyon, en 2018. Il fait lui aussi donc l'objet d'une procédure de dissolution initiée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et à noter que le fondateur de la Jeune Garde est maintenant député insoumis. Un rassemblement de soutien est annoncé pour aujourd'hui. Le rendez-vous à Lyon est fixé à 18h30 dans le square des Lestrins. On est en face de la préfecture du Rhône. Et donc la Jeune Garde compte déjà sur le soutien de divers groupes politiques comme la France Insoumise, le Parti Communiste, la CGT, l'UNEF ou Nous Toutes, qui appellent donc toutes à rejoindre ce rassemblement de mardi. Nous refusons cette attaque politique dirigée contre un mouvement antifasciste. Cette tentative d'intimidation envers l'ensemble de notre camp politique reflète le glissement opéré par les gouvernements successifs vers une forme d'autoritarisme acquis aux idées les plus réactionnaires. Ce sont les mots du collectif « Fermons les locaux fascistes » dans son communiqué. Et en effet, Bruno Retailleau, voulant faire mine de neutralité, a aussi enclenché des procédures de dissolution contre un groupuscule d'ultra-droite qui s'appelle Lyon Populaire. Si les négociations sur la poursuite de la trêve à Gaza étaient déjà compromises, elles semblent maintenant enterrées. C'est ce que nous explique Libération dans un article paru dans la matinée. Le Hamas a annoncé ce mardi que les discussions concernant un cessez-le-feu n'ont plus d'intérêt, car il n'y a aucun sens à engager des négociations ni à examiner de nouvelles propositions de cessez-le-feu tant que se poursuivent la guerre de la faim et la guerre d'extermination dans la bande de Gaza. C'est Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, donc, qui a expliqué ça dans un communiqué. Des déclarations qui surviennent donc au lendemain de l'annonce par Israël d'une nouvelle campagne militaire dans la bande de Gaza, campagne qui prévoit la conquête du territoire et qui nécessitera, selon l'armée, le déplacement interne de la plupart de ses habitants. Cette extension des opérations militaires est approuvée donc par le cabinet de guerre israélien après 19 mois de guerre contre le Hamas, prévoit également le contrôle des territoires saisis, selon une source officielle. Ce plan continuera de promouvoir le départ volontaire des Gazaouis du territoire palestinien proposé par Donald Trump, ce qui avait à l'époque provoqué un tollé international. Selon un haut responsable sécuritaire israélien, le temps des préparatifs militaires autorise une fenêtre pour la négociation d'un accord de libération des otages d'ici à la fin de la visite du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, qui est, elle, prévue du 13 au 16 de ce mois de mai. Le haut responsable du Hamas ajoute de son côté que le monde devrait faire pression sur le gouvernement Netanyahou pour mettre fin aux crimes de la faim, de la soif et aux meurtres à Gaza. Et les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, exprimait ce matin sa condamnation très ferme du nouveau plan israélien. « Ce n'est pas acceptable », a-t-il dit. Il estime que le gouvernement israélien était en infraction avec le droit humanitaire. Et donc, toujours selon le ministre français des Affaires étrangères, l'urgence, c'est le cessez-le-feu et l'accès sans entrave de l'aide humanitaire massivement. L'Union européenne s'est elle aussi dite préoccupée par ce nouveau plan. Elle appelle Israël à la retenue. Le chef de la diplomatie allemande rejette toute occupation permanente en rappelant que Gaza appartient aux Palestiniens. Et enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par ces informations de plan israélien pour étendre les opérations terrestres et prolonger la présence militaire d'Israël à Gaza. Petite histoire d'ailleurs dans la grande, c'est du côté de Los Angeles que ça continue aussi de manifester son soutien. C'est de l'actrice Nathalie Portman qui a refusé de recevoir le prix Genèse d'Israël, un prix $1 million, et l'a fait eh bien justement en raison du massacre de Palestiniens non armés. L'organisation donc de ce prix Genèse a annoncé qu'elle annulerait la cérémonie de remise qui était prévue au mois de juin à cause de l'annulation de l'actrice. Et d'ailleurs, en réponse à ce refus, la Knesset, le Congrès israélien, demande la révocation de la citoyenneté de Nathalie Portman, puisque celle-ci a donc la citoyenneté israélienne. Elle y est née quand elle était, et puis elle est partie ensuite au cours de son enfance. Elle a expliqué « Je ne vais pas au prix Genesis parce que je ne veux pas apparaître comme un soutien à Benjamin Netanyahou. Israël a été créé il y a 70 ans comme refuge pour les victimes de l'Holocauste, mais les mauvais traitements envers ceux qui subissent les atrocités d'aujourd'hui ne correspondent pas à mes valeurs juives », a déclaré la grande star donc, hollywoodienne, qui a notamment qui apparaît notamment en haut de l'affiche de la saga Star Wars.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
À noter d'ailleurs, toujours sur la thématique de la soutien à la Palestine, c'est le groupe Amnesty International, donc le groupe Gange Vigan, qui lance une petite campagne d'information suite à la sortie d'un nouveau rapport de Amnesty qui est paru au mois de décembre. Des bombardements, des déplacements forcés, la destruction des habitations, des terres agricoles, du réseau d'eau potable et des hôpitaux, suppression de l'accès à l'aide internationale par un blocus complet, meurtre. Voici tout ce qu'a donc répertorié ce rapport, dans lequel il est écrit que l'État israélien soumet depuis plus de 18 mois la population de Gaza à de telles conditions qu'Amnesty International qualifie ses agissements de génocide. Les conclusions de ce rapport, qui a duré sur 9 mois d'enquête approfondie, seront à découvrir et à venir écouter en détail, si vous le souhaitez, sur les marchés de Gange ce vendredi 15 mai ou au Vigan le samedi 16 mai. La position d'Amnesty International sera aussi développée au cours de la séance de ciné-débat qui aura lieu autour du documentaire Un médecin pour la paix. C'est jeudi prochain. Ça sera en juin, on vous en reparlera, mais ça sera le jeudi 12 juin à 20h30 au cinéma du Palace Ovigan, et ce, en présence de l'association France-Palestine.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, un petit café équitable. On part sur les colonnes du journal Reporter. Et cette petite brève qui reparle des méga-bassines avec un gros revers pour les associations écologistes qui s'opposent à ces méga-bassines. Le 30 avril dernier, le Conseil d'État a en effet validé la création de 21 réserves de substitution en Charente maritime. Le Conseil d'État rejette ainsi donc dans sa décision la demande de 3 ONG qui s'y opposaient. Ces ONG, c'était Nature Environnement, SOS Rivière et Environnement, ainsi que la Ligue pour la protection des oiseaux. Ces 3 associations requéraient l'annulation d'un arrêté datant de 2018 qui délivrait au syndicat mixte des réserves de substitution de Charente-Maritime une autorisation pour construire et exploiter donc des méga-bassines. On est dans le bassin de la Boutonne, qui est un affluent de la Charente. Ces bassines stockeraient 5 millions de mètres cubes d'eau, ce qui fait la consommation annuelle de près de 92 000 Françaises. En février 2021, ces 3 ONG donc avaient réussi à faire supprimer l'arrêté. Elles avaient saisi le tribunal administratif de Poitiers. Le jugement avait ensuite été annulé en mai 2024 par la Cour administrative de Bordeaux. Celle-ci avait considéré que l'étude d'impact et l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement étaient suffisantes, et donc que la construction des méga-bassines ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé. C'était donc là l'ultime recours possible pour ces associations opposées au projet, et l'État donc les a balayés. Les opposants dénoncent le fait que ces méga-bassines ne soient destinées au final qu'à 67 exploitations agricoles, et principalement des exploitations de maïs, des grandes cultures, donc du blé ou du soja arrosé aux pesticides. C'est ce qui s'expliquait il y a un an, Marie Beaumard, qui est responsable juridique de l'association Nature Environnement 17, et le tout en plus coûtera 32 millions d'euros, dont 80% d'argent public. Pas encore l'été, mais ça chauffe déjà très fort, peut-être pas chez nous, mais sur d'autres parties de la planète. Les températures extrêmes inquiètent terriblement, notamment sur la partie orientale, sur le continent asiatique. La chaleur a atteint déjà des records et elle met à rude épreuve les populations très pauvres dans ces régions. Dans certains pays, le mercure a frôlé les 50 degrés Celsius. Il a fait 47,6 en Arabie Saoudite, 48 au Pakistan et 49 au Koweït. Ce sont des anomalies pour ces pays, elles vont jusqu'à plus 12 degrés Celsius si on les compare aux dernières années. En 3 siècles d'histoire climatique, rien ne peut être comparé à ce qui se passe actuellement en Asie, alertait d'ailleurs le 27 avril dernier le climatologue Maximiliano Herrera sur le réseau social Blue Sky. Des dizaines de milliers de records sont battus avec des marges insensées dans toute l'Asie. Nous assistons à l'événement le plus extrême jamais observé. Le nord du continent n'est d'ailleurs pas non plus épargné, puisqu'en Irak, à Basra, les températures ont grimpé jusqu'à 46,1 degrés ce 26 avril. En Iran, la ville de Zaboul a atteint les 44,7. Et depuis la mi-avril, l'Inde et le Pakistan sont plongés dans une grave vague de chaleur précoce et inhabituelle. Les nuits sont suffocantes et elles ne suffisent donc plus à accorder un répit aux populations pour se reposer. En parallèle, les consommations d'eau donc, qui augmentent et d'électricité pour la climatisation principalement font craindre des pénuries. Au-delà de leurs effets sur la santé, ces vagues de chaleur sans précédent mettent donc à mal l'agriculture de tous ces pays et l'infrastructure, que ce soit donc au niveau électrique ou hydrologique. Une histoire de mondialisation maintenant, une toute petite histoire dans la grande. C'est un reportage là aussi déniché sur le journal Reporter. Et on part à Bornéo, où une communauté autochtone a reçu l'ordre de quitter ses terres sacrées, où elle vit, pour laisser une multinationale raser la forêt tropicale. Et vous allez le voir, tout cela pour finir certainement dans les poêles à granulés que nous utilisons en France. On est au cœur de la forêt tropicale du Sarawak, dans la partie donc malaisienne de l'île de Bornéo, qui est coupée entre plusieurs pays. Une petite communauté autochtone résiste à l'appétit dévorant de la multinationale qui les menace d'expulsion, et les habitants font ainsi face aux bulldozers, qui sont eux bien décidés à raser des terres sacrées pour fabriquer entre autres des granulés de bois donc, et principalement, je vous le disais, à destination des consommateurs français. C'est donc hier, le 5 mai, que l'association Human Rights Watch, qui s'occupe de du droit des peuples partout sur la Terre, c'est donc hier qu'elle a dévoilé le fruit de 21 mois d'enquête sur la situation qui nous préoccupe. Dans le viseur, donc, l'accusé, le Xinyang Group, c'est une société aux activités tentaculaires chinoises. Hein, ça va du transport maritime à l'immobilier, en passant par les produits miniers et la construction navale. C'est avant tout un des leaders asiatiques dans le secteur du bois. Ces produits nécessitent de grandes monocultures, hein, notamment de la culture de palmiers à huile. Sur le site justement de la partie malaisienne de ce géant, on a su raccorder une grande importance à la responsabilité environnementale et sociale, et elle loue d'ailleurs la pérennité de son industrie forestière. Une rhétorique, encore une fois, bien creuse qui vacille hein, quand on regarde la réalité, et notamment qu'on écoute les voix de la communauté autochtone du Ruma Jeferi. C'est le nom de cette petite communauté, ils sont 60 à peu près. Entre 2021 et 2022, près de 20 hectares de couverts forestiers ont été rasés. Et parmi les essences abattues figuraient des fruitiers qui sont cultivés par ce village depuis des décennies. Cette forêt est la pierre angulaire de l'identité culturelle et spirituelle de la communauté, expliquait Luciana Teles Chavez, qui est l'autrice du rapport. Les habitants y entretiennent les lieux de sépulture de leurs ancêtres ou déposent des offrandes au pied d'une chute d'eau vénérée. Une communauté donc encore ancrée dans sa forêt, dans son environnement, et qui en vit d'ailleurs un quotidien très rustique, sans eau courante ni électricité. Tout cela est aujourd'hui mis en péril. Et pourtant, ils n'ont dit oui à rien du tout. Hein. Le chef du village n'a jamais accepté de céder ses terres. Pourtant, dans le droit international, pour s'accaparer justement une forêt ou des terres, il faut le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones qui sont affectés par le déboisement. Devant cette injustice, donc, les habitants ont d'abord bloqué sans violence les engins de chantier à deux reprises. Une tentative de rébellion qui a été écrasée sans peine par l'industriel avec l'appui du gouvernement. Car le gouvernement malaisien, en effet, il y a bientôt 5 ans, via les autorités donc, du Sarawak, accordait à cette entreprise un bail qui chevauche la moitié est du territoire de Ruma Jeferi, donc la communauté. Pointé du doigt comme les agresseurs. Hein, le département des forêts du Sarawak a donc émis un ordre d'expulsion contre les autochtones. Et le ministre expliquait... Pardon, oh là, je me suis embrouillé dans le feuille. J'ai tourné la mauvaise page, voilà. Et pardon, en octobre 2022, le 14 octobre, condamnés à être expulsés. Les autorités ont donné 30 jours aux villageois pour quitter les lieux, démolir et enlever leurs maisons, cultures et autres biens. En plus, ils étaient censés démonter leur village. Ils ont donc refusé d'obéir à cet ordre et ils continuent encore aujourd'hui de résister. Ça fait presque 3 ans maintenant. Malheureusement, pour eux, aucun titre noir sur blanc, hein, puisque leur présence est avérée, mais n'est écrite nulle part. Donc pas de droit foncier coutumier, à part évidemment ce qui se fait de manière orale. Des photographies aériennes quand même de la Royal Air Force britannique de 1951 prouvent qu'ils habitent là, sur ce territoire, depuis au moins cette époque, mais c'est pas officiel. C'est donc une épée de Damoclès qui plane en permanence au-dessus de cette communauté, et la soixantaine d'individus continuent pour l'heure de résister comme ils le peuvent. Cette petite histoire est malheureusement loin d'être rare. Hein. Elle illustre le bras de fer qui est de plus en plus féroce et qui est instauré par les multinationales forestières à l'encontre des peuples autochtones partout dans le monde. Par exemple, si on reste sur Bornéo, en refusant de publier les cartes des baux qui sont accordés à l'industrie, le gouvernement de la province du Sarawak continue de maintenir le flou et tente de brouiller les pistes. Les concessions, de manière générale, empiéteraient sur au moins 250 000 hectares de terres coutumières. C'est ce qu'explique une association malaisienne qui s'appelle Rimba Watch. Ça fait environ 23 fois la superficie de Paris. Il faut savoir qu'en Malaisie, en 1960, la forêt primaire couvrait 90% du territoire de cet État, le Sarawak. Et aujourd'hui, on est en dessous des 10%. Donc le reste est principalement de la monoculture. Le succès commercial de ces forêts cultivées sur des anciennes forêts primaires rasées, il est en partie dopé par la demande croissante en granulés de bois. Ils sont utilisés comme combustible dans les poêles ou les chaudières, ce sont des petits cylindres de bois recomposés avec de la sciure ou des copeaux de bois qui sont normalement abandonnés sur le sol des usines une fois les rondins débités en planches. Ce qui en fait normalement une économie vertueuse, un circulaire, qui optimise les déchets de l'industrie du bois. Mais ça, c'est la théorie, puisque de nombreuses enquêtes et des lanceurs d'alerte ont dénoncé à maintes reprises que des entreprises utilisent des troncs entiers uniquement pour produire du granulé de bois, puisque c'est très rentable et que là, bah, chez eux, le bois, ils se le procurent, vous l'aurez compris, de manière gratuite. Il suffit donc de composter, de malaxer avec des machines n'importe quel type de bois, et puis après, on fait des granulés. Et les Occidentaux en sont friands. En 2023, la France figurait au premier rang des pays importateurs de granulés venant de cette province du Sarawak. Ça, ce sont des données récoltées par Human Rights Watch. Et il est malgré tout, vous savez, difficile de savoir quelles entreprises exactement achètent les produits qui viennent de ce géant Xinjiang Group. La France, comme les autres pays de l'Union européenne, ne publie pas ces données commerciales. On regrette d'ailleurs une activiste de Human Rights Watch. C'est donc un manque de transparence qui devrait être corrigé, d'autant qu'il y a des législations sur ce domaine. En plus de la loi française sur le devoir de vigilance, du côté de l'Union européenne, un règlement a été adopté qui interdit la mise sur le marché européen de marchandises en bois fabriquées à partir de terres déforestées. Ça, ça remonte à décembre 2020. L'histoire de la petite communauté de Ruma-Jeferi résonne donc comme un signal d'alarme, ce qui invite pour inviter l'Union européenne à rapidement mettre de l'ordre dans ses affaires, explique là encore l'environnementaliste. Malheureusement, vous le savez, le droit environnemental se fait détricoter de tous les côtés, donc pas sûr que l'Union européenne ait les muscles pour faire valoir ses droits. Ni le groupe Xinjiang, ni ZT, qui commercialise les granulés, n'avait répondu d'ailleurs aux sollicitations de l'ONG au moment de la publication de ce rapport.
De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents.
Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là.
Ouais, c'est pas faux.
Désolé, beaucoup de pollen dans la cabine aujourd'hui. On termine... on a presque fini. On part en Colombie, où la semaine dernière, durant les jours précédant le 1er mai, une grande mobilisation a eu lieu de la part, justement, de peuples indigènes de Colombie. Ça faisait suite à l'appel de 6 organisations représentantes des peuples indigènes de Colombie, dont l'ONIC, l'Organisation Nationale Indigène Colombienne, qu'on appellera ONIC. Plus de 25 000 indigènes, donc de toutes les régions de Colombie, sont arrivés dans la capitale Bogota pour une minga déterminée. Une minga, c'est une mobilisation avec le sens du travail collectif à des fins sociales. Plein de bus bariolés ont ainsi déferlé sur Bogota depuis tout le pays. Un immense campement rassemblant la plupart des manifestants a pris place dans les jardins de l'Université nationale, qui est le point d'ancrage de nombreuses mobilisations colombiennes. On peut citer notamment la fameuse place Che Guevara, ça ne s'invente pas, et les portraits des martyrs des luttes nationales. Ces peuples indigènes donc souhaitaient rappeler au président actuel la longue liste des accords passés avec les gouvernements antérieurs qui n'ont jamais été appliqués. Des accords qui concernent différents sujets, portés de longue date par les peuples indigènes, à savoir la restitution des terres, la reconnaissance des territoires de certains peuples, la légitimation du système de santé pour les peuples autochtones et la gestion autonome de ce système, le refus des projets miniers, etc. etc. Mais ces peuples indigènes se mobilisaient également pour soutenir les efforts du président Gustavo Petro, qui vient d'être élu il y a à peine 3 ans. Cet ancien guérillero du M19, une guérilla bolivarienne, s'est fait élire en effet sur un programme ambitieux de réformes structurelles de la société colombienne, et notamment en faisant, en tout cas la part belle, à plus de justice sociale vers une transition écologique en faveur de l'agriculture paysanne et donc aussi pour les droits des peuples indigènes. Problème, les partis conservateurs et de droite sont majoritaires au Sénat et à la Chambre des représentants. Ils bloquent ainsi toute avancée sociale et progressiste. Les peuples indigènes, conscients de n'avoir obtenu des droits que par les mobilisations antérieures, se sont donc mobilisés à nouveau pour tenter de rappeler à l'ensemble de la classe politique de Colombie que l'application des accords passés et la mise en place des réformes portées par le président actuel n'étaient pas négociables. Un rappel au pouvoir en général que les peuples indigènes de Colombie, après 500 ans de résistance, sont toujours capables de se mobiliser et de lutter par tous les moyens. En France aussi, la résistance continue de tenter de tenir bon et elle renaît de ses cendres encore chaudes, puisque on va parler là aussi de bois et de cette fameuse centrale de Gardanne. Vous semblez vous rappeler de cette centrale à charbon qui devait dorénavant fonctionner avec de la biomasse. Une conversion donc de centrale à charbon en biomasse, c'est-à-dire principalement en déchets aussi de l'industrie du bois, mais pas mal de forêts qui seront coupées pour juste son fonctionnement. C'est ce que critiquent de nombreuses associations, et ce donc depuis plus de 10 ans. Des arbres coupés, transformés en plaquettes, hein, après des années de silence radio, hein, de quasi-torpeur, les cheminées de cette centrale, située juste au nord de Marseille, crachent à nouveau leur fumée blanche en continu depuis juste ce 1er janvier 2025. Ça fait depuis 2012 que de nombreuses associations environnementales, locales ou régionales, se battent contre l'autorisation d'exploiter cette centrale. Depuis sa reconversion, en effet, les activités de c'est la centrale E.ON ne cessent d'être décriées par toutes ces organisations de défense de l'environnement. Ils pointent de la pollution atmosphérique, une menace sur les forêts et la biodiversité, le danger pour la santé, et le tout pour une activité pas super rentable, que ce soit au niveau économique ou énergétique. Un avis avait été rendu en décembre 2024 par l'autorité environnementale. Il estime que pour un fonctionnement annuel de 5000 heures, Les émissions fossiles de cette centrale s'élèvent à 234 kg de CO2 par mégawattheure, ce qui fait un ratio 4 fois supérieur à la moyenne nationale si on regarde la production d'électricité en France métropolitaine. Et en plus, le bilan ne prend pas tout en compte, puisqu'il n'inclut pas les quantités de CO2 qui sont générées par la combustion du bois. Le site émettrait en réalité 16 fois plus de CO2 que la moyenne nationale, selon toujours les estimations de l'autorité environnementale. Et c'est donc l'aspect qui les soucie le plus, explique le rapporteur. On a là une production qui n'améliore pas le bilan CO2 de l'électricité française. L'entreprise, elle, répondant donc à Mediapart, qui a publié cette enquête, se félicitait malgré tout d'avoir divisé par 6 les émissions de CO2 par rapport à 2009, lorsqu'on exploitait encore du charbon. Ouais, bon, c'est sûr que si on se compare à l'industrie du charbon, tout a l'air bien. En tout cas, le bois qui est donc brûlé, englouti par cette centrale, il n'est pas seulement constitué de résidus, comme souvent l'argument est avancé par ses défenseurs de l'énergie produite par biomasse. En effet, un tiers de ce bois est en réalité importé de l'étranger par bateau. Hein. On peut citer 60 000 tonnes d'eucalyptus qui viennent justement du Brésil, du Rio Grande do Sul, dont on a parlé tout à l'heure. La centrale est aussi fournie pour autres 30% auprès de sites qui sont inscrits et classés, par exemple des zones Natura 2000. Et là, on est sur plutôt les territoires français, notamment ceux qui nous concernent, puisqu'il y a une question de rayon où elle doit pour le côté énergétique et réduire les transports, eh bien, elle doit se fournir à proximité. Et donc, ça fait un joli arc de cercle qui passe par les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche, et qui vient aussi dans les Cévennes. Et enfin, si on s'intéresse à l'intérêt de produire cette électricité, le prix d'achat de cette électricité se situerait entre 250 et 260 euros le mégawattheure, ce qui fait 4 fois, là aussi, le prix du marché. Actualité, en tout cas, pour ce qui est de cette centrale en ce début mai, eh bien, c'est que l'étude d'impact, à l'époque, n'avait pas respecté le code de l'environnement, puisqu'elle ne concernait que quelques communes très proches de Gardanne, et n'incluait pas les communes où le bois devait être abattu, donc sur le fameux rayon dont je viens de vous parler. Ça fait donc plusieurs années que sur cet argumentaire, eh bien, des luttes juridiques et des manifestations ont été menées. Les associations ont donc obtenu que le Conseil d'État annule l'autorisation d'exploiter la centrale, ce qui fait qu'elle n'a pas fonctionné pendant toutes ces années. Mais suite à cela, la Cour administrative d'appel de Marseille a donc ordonné une nouvelle étude des impacts directs et indirects, ainsi qu'une nouvelle enquête publique. Et c'est là que ça vous concerne peut-être, puisque cette enquête publique va se dérouler sur 324 communes de France. Ça va durer depuis ce 5 mai au 6 juin inclus, ça dure juste un mois. Toute une série de réunions publiques prévues dans des petites villes, on va dire, dans les territoires prévus. Ça a déjà commencé hier dans les Hautes-Alpes à Serres. Aujourd'hui, c'était au Mai, dans les Alpes du Haut-de-Provence. Et justement, toutes ces associations environnementales vous invite fortement à essayer, si possible, d'aller dans ces réunions pour participer à l'enquête publique et d'assurer une forte présence, puisque à chaque fois, les argumentaires seront proposés par Gazelle Énergie, hein, l'entreprise qui sera à chaque fois présente, et donc ils veulent aussi que le contre-argumentaire soit présent. Donc pour ce qui nous concerne, ça sera le 14 mai à Bagnols-sur-Cèze, pour le Gard. Le 15 mai, il y en aura une à Béziers. Le 19 mai à Florac. Et le 20 mai à Alès. Donc vous voyez que ça concerne vraiment le secteur et notamment l'avenir d'une partie des forêts qui nous entourent. Eh bien voilà, c'est là-dessus que je vous quitte. Quelques petits rendez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi pour d'autres... Ah non, on se retrouve pas jeudi, c'est férié, super. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bye bye.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.